des dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
On sait quel le choc avait représenté au moment où il était sorti sur les écrans au début des années 1960, le film de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, nous avons presque 4 décennies de recul par rapport à lui, nous pouvons essayer de le lire dans sa profondeur et essayer de décrypter ce qui nous est dit, ce qui nous est offert en fin de compte, à travers l'histoire, l'histoire dont on sait qu'elle se déroule en 3 parties, puisque d'une part on assiste à l'humanisation de singes anthropoïdes, puis c'est la quête, l'odyssée, pour reprendre le titre même, l'odyssée de cosmonautes en route vers les frontières du système solaire, et particulièrement de celui qui survivra à l'ensemble de l'équipée, l'astronaute Bowman. L'astronaute Bowman qui, dans une troisième partie, va être métamorphosé dans ce qu'il est convenu d'appeler un fils des étoiles, et ça sera cette vision absolument extraordinaire de la fin du film, où on voit une sorte de fœtus qui flotte dans le champ stellaire où il se détache. En réalité, on sait aujourd'hui, à travers un certain nombre d'interviews auxquelles on a pu avoir accès, que Kubrick avait une connaissance très profonde, d'une part des anciennes mythologies, et d'autre part de l'œuvre psychologique de quelqu'un comme C.G. Jung. Et c'est donc pourquoi nous allons tenter de nous livrer, en compagnie de Jean-Marc Elsols, qui a consacré une thèse tout à fait remarquable, de nous livrer donc un décryptage de cette œuvre à travers le référent majeur qu'est l'alchimie. Et la première question, évidemment, que l'on peut se poser par rapport au début du film, puisque on voit des singes anthropoïdes qui, en présence d'une pierre noire tombée du ciel, vont devenir des hommes à travers la manière dont ils vont se servir d'un os et le transformer en outil, si précisément ce n'est pas cette thématique qui parcourt l'ensemble du film, qui le sous-tend en même temps, cette thématique de la pierre noire, du monolithe, c'est-à-dire précisément de la pierre sur laquelle on travaille et à laquelle on doit arriver en fin du parcours alchimique.
Le seul antécédent iconographique que j'ai pu trouver de la pierre carrée qui habite le film Kubrick est dans le domaine alchimique, c'est-à-dire des gravures du XVIIe ou XVIIIe siècle, qui de manière troublante reproduisent cette pierre cubique surmontée par la même figuration de l'éclipse qui accompagne le monolithe aussi bien sur Terre que sur la Lune. Je dirais que ceci est peut-être le point qui a attiré dès le départ le plus fortement mon attention. Maintenant, il fallait déterminer s'il s'agissait simplement d'une coïncidence, ou si, tout au contraire, il s'agissait véritablement d'une piste à exploiter pour proposer, je dirais, une lecture du film, ou même une expérimentation à partir du film. Je n'aime pas tellement le terme interprétation, mais je préfère de beaucoup, d'ailleurs, au sens de Deleuze, le terme d'expérimentation, c'est-à-dire de proposer un regard, une lecture sur ce film. Avant de partir sur les traces des hommes-singes, je remonterai moi-même tout à fait au début, c'est-à-dire au prologue. Nous avons donc la Lune qui est un astre chaotique et obscur, le Soleil qui est brillant et extrêmement lumineux, et entre les deux, vous avez la Terre qui apparaît donc. Eh bien, ce point de vue est transparent pour le spectateur, qui lui, en réalité, est complètement fasciné par la scène qu'il observe. Mais ce point de vue, en réalité, est, lui, parfaitement ascientifique. C'est-à-dire qu'il induit chez le spectateur l'idée que ces astres sont formellement, ont une équivalence formelle qui permet d'imaginer une dynamique entre eux. Également une dynamique qu'on pourrait qualifier de filiation, c'est-à-dire que vous avez la Lune, ensuite duquel sort le Soleil, et entre les deux vous avez la Terre, comme si effectivement il y avait une succession logique de ces astres. Bien sûr, d'un point de vue astronomique, ce message n'a aucun sens. Par contre, d'un point de vue symbolique, ce message ou cette disposition est assez caractéristique en termes de l'alchimie sur la naissance alchimique du monde. Alors vous vous souviendrez notamment, évidemment, de la table d'émeraude qui pose, enfin qui est considérée d'ailleurs comme la Bible des alchimistes et qui indique que le monde est né de la manière suivante. Eh bien, d'abord, donc le Père était le Soleil, la Mère la Lune. Entre les deux, la Terre est apparue. Et ensuite, vous avez un trajet donc qui sera le trajet du film, c'est-à-dire que Bauman, donc qui naîtra de la Terre l'a portée en son sein. Eh bien, montera donc jusqu'à un endroit qu'on appellera l'Empyré, on analysera ensuite ses caractéristiques, pour revenir et former un nouveau soleil, c'est-à-dire ce que indique la table d'émeraude, en concluant, la construction du soleil est achevée.
La corruption est proche du principe de la génération, car elle est à l'origine du mouvement disposant la matière pour la génération à travers les degrés successifs d'altération. La corruption met en mouvement la matière et la prépare afin qu'elle devienne capable de soutenir la forme. Telle une médiatrice, elle exerce alors le métier d'entremetteuse pour que la matière comble plus facilement la convoitise de la nature et qu'elle parvienne, par son assistance, à l'accouplement de la forme.
Le film se termine sur ces paroles et qui, à mon avis, révèle la véritable connaissance qu'ont les hommes de cette pierre. Son origine et son but sont un mystère total. Plutôt que voir un objet, je dirais, extraterrestre, moi, je le vois surtout dans l'environnement de grotte dans lequel il apparaît, plutôt comme l'émergence d'un cristal, c'est-à-dire d'une force. Mais cette force qui anime la pierre et qui lui donne donc l'apparence du cristal sera la même force, disons un symbole de perfection, qui peut habiter l'être humain, sa psyché, et faire naître cette forme très incongrue de la pensée qu'est la ratio ou la raison.
Est-ce que d'une certaine manière, Jean-Marc Elsol, on ne pourrait pas penser au culte que l'on connaissait dans l'Antiquité de pierres noires, dressées, descendues du ciel, qui d'une certaine manière était simplement le témoignage de ce qui dépassait l'homme de toutes parts, et qui effectivement, Dieu sait qu'à l'époque on ne pensait pas aux extraterrestres, qui était simplement l'indication, je dirais, du flux vital, en quelque sorte, qui emmenait l'ensemble de lumière.
Il n'y a aucun doute que Kubrick avait en tête, dans cette partie, le culte des pierres. Ça c'est évident, et qu'il les connaissait, puisque c'est une connaissance tout de même assez répandue. On connaît Stonehenge, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'appuierai sur la précision, en fait, de la représentation de cette pierre. Encore une fois, cette pierre est cubique, et la pierre cubique en alchimie est connue, c'est-à-dire que la pierre cubique, pour les alchimistes, était vraiment l'expression d'une émergence, d'une perfection dans la matière. Alors, pour cela, je reprendrai par exemple le travail de Fulcanelli. Fulcanelli, dans l'un de ses ouvrages, décrit l'une des premières émergences du miracle, je dirais, alchimique, c'est-à-dire la preuve que quelque chose se passe réellement dans la chimie, comme l'émergence d'une pierre flottant sur les eaux, et sur laquelle est inscrite une mention évangélique qui est « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Eh bien, si on regarde l'expérience de stupeur que provoque cette pierre sur la Lune, on retrouve un petit peu le même tractus, puisque le mystérieux monolithe qui est découvert sur la Lune provient donc d'une mer lunaire et provoque effectivement une expérience absolue de stupeur. C'est-à-dire qu'au regard de l'alchimie, eh bien, c'est l'influence, je dirais, des astres qui pénètre au sein de la Terre et qui crée donc cette pierre cubique.
À côté du schéma ternaire et de la division quaternaire, reste le nombre essentiel, à savoir l'un, qui est aussi le tout. Entopan, suivant la célèbre formule alchimique selon laquelle tout est un et tout se ramène à l'un. En fait, entre l'unité initiale et l'unité finale, entre l'alpha et l'oméga, entre la tête et la queue de l'ouroboros, il y a tout de même une différence. L'unité initiale est une unité magnétique, confusionnelle, qui est, sans se savoir, telle. L'unité finale est une unité maîtrisée par un principe centralisateur, formalisé, organique, l'apothéose de la conscience. Entre les deux, joignant la tête et la queue, tout le circuit de la matière transmuée, le processus alchimique, materia prima, dédoublement en principes opposés, fixe et volatile, masculin et féminin. Les trois états de la matière, les autres éléments, l'unité synthétique de la pierre. Circuit non fermé, mais ascendant, cercle non clos, mais spirale montante, jusqu'au sommet qui est le centre de la circonférence projetée vers la hauteur. Tels sont, grossièrement résumés, les divers éléments qui constituent la dynamique de l'opus magnum.
Alors, il y a une image sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, Jean-Marc Scholz, parce qu'on voit très bien comment, je dirais, elle a frappé tous les spectateurs. Hein, l'homme est devenu l'homme, nous sommes maintenant à l'époque moderne, effectivement on a trouvé ce monolithe sur la Lune, on va aller l'examiner, et puis il y a ce voyage de la Terre à la Lune, et il y a cette station orbitale qui tourne dans l'espace. Qui tourne dans l'espace sur, bon, le fameux rythme de valse. Bon, alors tout le monde a été extrêmement frappé par ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement profond sur cette forme ronde qui est en train de qui est en pleine rotation et qui est en rotation sur un rythme de valse, c'est-à-dire un rythme à trois temps dans la mesure où précisément le rythme à trois temps est en même temps l'indication d'un mouvement, l'indication d'une dynamique, et donc comme si cela allait nous introduire au mystère finalement que nous allons découvrir.
Oui, cette insistance sur le caractère à trois temps est assez fondamentale. Il y a un point qui est important et qui est expliqué dans le livre de Clark, puisque Clark était le co-scénariste de Kubrick sur 2001. Et Clark a une notation sur le monolithe qui est vraiment passionnante, puisqu'il nous en indique non pas la taille véritablement, mais les proportions. Les proportions du monolithe sont les carrés des trois premiers nombres. 1, 2, 3 portés au carré, c'est-à-dire 1, 4, 9. Et il a une autre notation en fin de son ouvrage, où l'enfant des étoiles découvre qu'il existe en fait une dimension supplémentaire, et que donc il ne faut pas imaginer que cette perfection donc, du 1, 4, 9 s'arrête là. Nous obtenons donc le 1, 4, 9 et 16, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 au carré. Ce 4 au carré est la formule même du carré magique, dit carré de Jupiter, qui se trouve par exemple sur la gravure de Dürer, par laquelle nous voyons un esprit sous la forme d'une femme en train de s'acharner et de songer en même temps, en fait, à la taille d'une pierre. Donc nous retrouvons ici la taille de la pierre. Là, pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, il faut retrouver ce qui s'est passé au prologue. Vous vous souvenez que nous avons vu la Lune, donc le 1, le Soleil, le 2, et le 3, la Terre, qui est installée ici, et qui s'installe entre les deux. Vous avez donc trois sphères. Une quatrième sphère va apparaître dans l'épilogue du film, qui sera l'Enfant des étoiles. Donc, tout le problème du film va être de passer de ce 3 à ce 4. Or, le propre du carré magique est de poser le 1, 2, 3 et 4 au carré, c'est-à-dire de 1 à 16, de telle manière qu'en diagonale et sur les côtés, nous obtenions le chiffre 34, c'est-à-dire le 3-4. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que le 3 et le 4 seront les deux chiffres qui vont structurer tout le film de Kubrick. Donc vous avez ces trois sphères qui doivent passer à une quatrième sphère, l'enfant des étoiles, mais vous avez également le fait que la plupart des critiques, sans le savoir, disent que le film a trois parties ou que le film a quatre parties. Et cela est dû à un décalage en fait dans la structure même du film, puisque vous avez trois parties sous-titrées par Kubrick même, et vous avez une quatrième partie qui n'est pas sous-titrée, qui est ce fameux raccord de l'os se transformant en satellite. Eh bien, tout le film est construit sur le déséquilibre 3-4. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est la perfection de cette construction, puisque le monolithe devient ainsi la pierre angulaire du film. C'est-à-dire que tout le film est déployé non seulement à partir du prologue en tant que forme naturelle, mais sur la mesure ou sur le rythme même de sa figuration centrale, qui est ce fameux monolithe, ou monolithos, on pourrait dire même la seule pierre.
Est-ce qu'on ne retrouve pas, en fin de compte, là aussi, le fameux axiome alchimique de Marie la prophétesse, Myriam, la sœur de Moïse? Vous savez bien, du 1 naît le 2, du 2 naît le 3, du 3 naît le 4 en tant qu'unité. Qui nous dit quoi? C'est que le 3 est précisément la force de la dynamique, c'est effectivement le déroulement d'une histoire, que pour atteindre à ce 4, il faut effectivement tout un trajet, et que le 4 apparaît comme la réinstauration de l'unité. Simplement, c'est pas exactement la même unité qu'au début, puisque c'est une unité déployée, c'est une unité réalisée, c'est une unité matérialisée. Et on a l'impression qu'effectivement, il faut toute l'histoire du film pour arriver à cet enfant des étoiles en tant que il est la réinscription d'unité, mais d'une unité supérieure, éventuellement, ou réalisée par rapport à ce qu'on a fait au début.
Oui, d'ailleurs, il y a un très beau texte alchimique qui parle justement de la différence entre l'unité originelle, magmatique et confuse, et on peut tout à fait voir le portrait de cette lune chaotique, et l'unité finale, éclairée, et qui est une apothéose de la conscience, donc apothéose de la conscience, et qui est très très bien figurée par un enfant ou un fœtus, on pourrait dire solarisé ou astralisé, absolument. Et effectivement, l'axiome de Marie l'alchimiste reprend entièrement la dynamique du prologue et de l'épilogue, c'est-à-dire la lune, le soleil, la terre, suivant les termes mêmes de l'alchimie, et c'est ça, je crois, qui est très 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 parlant, hein, c'est-à-dire véritablement la lune est considérée comme le principe mercuriel originel, le soufre est considéré comme le soleil, c'est-à-dire le principe énergétique, la terre est figuré très souvent comme le sel dont on dit qu'il est cette terre virginale qui portera la vie. Et l'enfant des étoiles lui-même est très souvent représenté sous la forme d'un enfant étoilé, ou encore l'ensemble du travail également alchimique est décrit dans des termes, je dirais, biologiques, ceux que nous verrons s'afficher dans les étoiles et dans l'Empyrée quand nous passerons à cette partie.
Sachez que la fin n'est que le commencement, et que la mort est cause de la vie et le commencement de la fin. Voyez noir, voyez blanc, voyez rouge, c'est tout. Car cette mort est vie éternelle après la mort glorieuse et parfaite.
Ce sur quoi on peut s'interroger, c'est sur toute la partie centrale du film. Dans la mesure où on repère bien qu'effectivement, il faut un trajet pour aller vers cette unité nouvelle, dont il faut accoucher d'une certaine manière, il faut engendrer, mais en même temps, que représente cette phase qui est une phase de l'œuvre, dans laquelle il y a des épreuves, il faut affronter la mort, il faut finir par entrer dans une dimension inconnue, mais du point de vue humain, en fin de compte, qu'est-ce qui nous est raconté à travers, quand même, ce qui occupe quand même une grande partie du film?
Eh bien, ce qu'il faut voir, et le point qui est important, c'est le fait que, effectivement, le prologue contient toute la dynamique de l'œuvre. C'est-à-dire que, d'une part, le film de Kubrick va insister énormément, je dirais, sur une fascination de la matière, qui nous sera présenté vraiment dans tous ses états. Vous avez donc les jeux sur les planètes, c'est-à-dire bon, la Terre cristallisée qui est magnifique, en fait, et extraordinaire aussi pour une période où on ne possédait pratiquement pas de clichés couleurs. Vous avez la Lune, une minéralité aussi absolument écrasante, un sol désolé. Vous avez l'extraordinaire aussi apparence de Jupiter, enfin les proportions écrasantes sur la musique de Ligeti. Donc vous avez encore, donc dans le passage de l'Empyrée, vous avez ces déploiements dans les étoiles incandescents, et vous avez sur le survol de cet astre mystérieux, qui est un soleil en réalité, mais il faudra encore expliquer pourquoi, eh bien vous avez encore eu des éruptions matérielles, vraiment vous avez un éloge de la matière. Je crois que le film présente, alors de manière assez transparente pour le spectateur, qui lui suit plutôt la narration ou l'intrigue directe. Mais je dirais que si on regarde d'un point de vue plastique, vous avez un éloge de la matière sous tous ses états, qui est particulièrement évoqué par Kubrick et qui fait sa fascination et son délice. Alors, cette matière est totalement reliée à l'homme. À savoir que, dès le départ, la première scène que nous pouvons avoir où apparaît un être humain, la première figuration humaine qui apparaît, est celle d'un squelette. Squelette dont la tête est appuyée contre une pierre ronde. Pourquoi l'outil qu'utilisent les hommes-singes est-il en os plutôt qu'en pierre, alors qu'ils viennent d'être, je dirais, illuminés par la conscience, ils avaient obtenu leur conscience de la part du monolithe? Eh bien, je crois que ce que veut poser Kubrick dès le départ, c'est l'identité entre la pierre et l'os dans le corps humain. Alors, pourquoi cette identité? Eh bien, la première représentation que nous avons donc dans ce film de l'être humain, c'est un squelette, et ensuite des hommes-singes qui ont bien du mal pour survivre. Hein. C'est clair, on les voit, ils ont du mal à trouver de la nourriture, l'eau est extrêmement réduite. C'est-à-dire que nous avons un portrait ici de l'homme chuté, c'est-à-dire d'une sorte d'Adam. D'ailleurs, en tant que figure initiale, ce squelette pourrait être regardé comme étant l'Adam primordial, c'est-à-dire celui l'être humain comme étant celui, l'être de la perte, celui qui a disparu. Ce qu'il faut voir, c'est le rapport fondamental de l'être humain à la pierre, et particulièrement au monolithe. Ceci est exprimé dans le livre de Clark, où vous avez Floyd qui, quand il regarde le monolithe, évoque l'impression qu'il a d'être devant une pierre tombale dressée devant lui. Le problème de la pierre, le problème du regard de l'homme sur la pierre, c'est que la pierre est ce qui dure, pratiquement pour l'éternité, en tout cas symboliquement pour l'éternité. Et lorsque finalement nous regardons la pierre, nous pouvons considérer que nous sommes déjà morts. Et c'est cela qui explique, si vous voulez, le caractère sombre du monolithe, je crois, sa noirceur, la noirceur qui est qualifiée d'ailleurs en alchimie de noirceur mortelle, ce noir plus noir que le noir. Dans le livre de Clark, le monolithe est décrit comme la substance la plus noire de l'univers. Bien, vous avez cette rencontre, donc, ce face-à-face avec la mort, qui est la rencontre, et qui est également, je dirais, l'acte fondateur de la conscience. Car qu'est-ce qu'être conscient, si ce n'est savoir que nous allons mourir? D'un point de vue alchimique, ce qui est important ici de regarder, c'est que vous avez donc cet homme chuté, donc, face à la pierre, mélangé à la matière, puisque le squelette est vraiment mêlé dans la terre, et vous avez face à lui un cristal parfait. Le cristal est quelque chose, est une forme qui va traverser le film dans sa totalité. Vous avez déjà donc le monolithe en premier lieu. Vous aurez ensuite de fins cristaux qui apparaissent, par exemple, sur la glace des sarcophages, sur la vitre des sarcophages d'hibernation. Vous avez de splendides cristaux animés, des diamants qui vont apparaître dans l'empyrée. Et qu'est-ce que l'enfant des étoiles, si ce n'est, dans sa gangue de verre, si ce n'est un être humain qu'on pourrait qualifier de cristallisé, c'est-à-dire véritablement dans une boule de cristal, ou du moins, pour prendre un terme peut-être plus moderne, vitrifié. Mais en tout état de cause, la symbolique du cristal va constamment accompagner le film. Et donc, lorsque l'être humain va découvrir les outils, et lorsqu'il va jeter l'os vers le ciel, eh bien, il faut y voir autant, bien sûr, la conquête de l'outil, ça c'est, je dirais, le narratif classique, mais encore la volonté et la compréhension que l'os, eh bien, ou que le corps humain doit être emmené vers le soleil pour être cristallisé, comme sera le corps de Bowman transmuté en enfant des étoiles.
Aujourd'hui, le grand œuvre est oublié. Celui qui en suit les chemins ne sait même pas qu'il y est entré. Et plus d'un s'interroge à la manière du kabbaliste qui, cependant, ignore tout de sa doctrine.
Pour comprendre le fond de ce film, Jean-Marc Elsols, est-ce que il n'est pas Il ne faudrait pas aussi se rappeler l'analogie profonde qu'il y avait autrefois entre alchimie et astrologie. Je m'explique là-dessus. C'est que on sait très bien que l'œuvre alchimique correspondait aussi, je dirais, au voyage de l'âme, comme on le trouve par exemple avec Homère le Pamphylien chez Platon, dans le songe de Scipion chez Macrobe, etc. C'est-à-dire le voyage de l'âme à travers les sphères, où on montait peu à peu de sphère en sphère vers l'empyrée divin, c'est-à-dire le moment où on entrait dans une dimension différente. Or, on a l'impression que parallèlement à ce travail alchimique, ou plus exactement étroitement mêlé et imbriqué dans ce travail alchimique, il y a précisément l'envol vers les étoiles des cosmonautes, celui d'ailleurs qui va passer, si l'on peut dire, à travers l'aventure, et que il aboutit au ce qu'on pourrait appeler le huitième ciel, ou ce que dans l'histoire des religions on appelle le huitième climat, ce qu'on appelle l'empyrée, c'est-à-dire le domaine de la force surnaturelle, qui est ce qui visuellement se traduit par ces images qu'avait laissées sur le moment très perplexes un certain nombre de spectateurs. C'est-à-dire ce ne sont plus que des images abstraites, des coulées lumineuses, des sortes de travelling avant à travers la lumière, etc. Pour indiquer que précisément ce n'est plus de notre monde, on est passé dans une autre dimension, et nous sommes effectivement là où, d'une certaine manière, la force divine est présente, symbolisée précisément à travers la pierre, en tant que la pierre, et aussi cette pierre tangle qui renvoie au ciel.
Oui, alors ce passage de l'empyrée est probablement ce que je vois en tout cas comme étant le grand secret du film. Et d'ailleurs, on peut dire que Baumann en ressort tremblant. Vous vous souvenez peut-être de ce plan où on voit Baumann complètement atterré. Eh bien, Baumann en ressort tremblant comme Galahad quand il a jeté un coup d'œil dans le cercle de la coupe du Graal. C'est-à-dire, c'est le point fondamental. Beaucoup de critiques ont noté qu'en fait, nous pouvions revoir au travers de ces scènes, alors je parlerai plus tard des figures colorées, mais en tout cas au moins sur les figures spatiales, une recréation du monde. Effectivement, on voit une explosion comme un Big Bang, qui est en fait un zoom sur une galaxie. Ensuite, nous voyons des formations circulaires qui ressemblent donc elles-mêmes à des formations, je dirais, soit de systèmes solaires, soit de galaxies. Et ensuite, nous voyons des étoiles. Le point qui est important là, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ces formes géométriques qui sont précédentes à cette recréation du monde que nous propose Kubrick? En ce cas, cela signifierait qu'aux yeux de Kubrick, avant même d'être monde, donc d'être un monde apparent, ce qu'est le monde, c'est avant tout l'expression de la forme à l'état pur. Et là, nous pourrions retrouver les spéculations plotiniennes sur l'idée de la forme. Donc, avant même que les galaxies se forment, avant même que les étoiles apparaissent, eh bien, il existait donc cette forme, donc ce principe de géométrie, ce principe des formes plotiniennes. Et on comprend mieux ici la phrase de Kubrick quand il dit l'image réelle ne pénètre ni ne transcende. Le monolithe est parfait, pourquoi ? Parce qu'il est une forme parfaite, parce qu'il est l'expression dans le chaos amorphe de la pierre de la forme parfaite. Eh bien, ces formes sont réellement à l'origine du monde, et c'est, je dirais, le secret que découvre Baumann. Et en même temps, c'est totalement la dynamique du film, puisque la dynamique du film est véritablement un travail purement formel. Hein. Nous devons passer, des astres et des hommes vers un astre circulaire contenant un homme. Eh bien, Kubrick ne cessera, par exemple, d'utiliser les lois de la gravitation pour faire tourner les êtres sur eux-mêmes et amener cette circularisation, ou cette circularité, en tout cas, de la figure humaine. Hein. Vous avez Paul qui tournoie sur l'adagio, d'ailleurs un très bel adagio, qui tournoie dans le carrousel. Vous avez encore la fameuse séquence de l'hôtesse que nous voyons tourner sur elle-même. Eh bien, il ne faut pas y voir simplement une exhibition ou la volonté de faire une belle image. Il faut y voir réellement la volonté d'arriver à cet homme circulaire, c'est-à-dire la réinscription finalement de l'homme rectifié géométriquement, donc dont la forme serait améliorée et perfectionnée, comme le veut la chimie, et obtenir cet homme circulaire qui était d'ailleurs l'homme original, la dame Cadmon qui était réputée être circulaire, ou encore l'homme originel de Platon.
Thank you.
travers cette nouvelle genèse de l'univers, en quelque sorte, qui nous est proposée par Kubrick, et à travers ce qui va suivre, bon, il y a effectivement que le monde, je dirais, on est presque devant le Timée de Platon. C'est-à-dire que ce sont des rapports de forme et des rapports géométriques qui déterminent l'existence de l'univers. Mais est-ce que ce nouvel univers auquel nous sommes confrontés n'est pas précisément, selon ce que cherche la chimie, c'est-à-dire la rédemption de la nature en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas un univers transfiguré? Ce qui fait que justement nous avons, nous, en tant que spectateurs, et donc en tant qu'humains encore moyens et normaux, nous avons tellement de mal à le saisir, parce qu'on voit très bien que l'espace et le temps n'y sont plus l'espace et le temps auquel nous sommes habitués, c'est-à-dire c'est l'univers dans sa nature véritable, et lorsque je dis transfiguré, ça veut dire rédimé, c'est-à-dire la chute initiale dont vous parliez est niée, nous sommes entrés en quelque sorte dans la perfection de la perfection de cette réalisation totale dont vous parlez, à partir de la dimension du 4.
Oui, oui, ce point est important, et en plus ce point est totalement exploité par Kubrick. Je dirais que dans les deux tiers du film, nous avons une histoire... une narration classique de science-fiction et qui se tient, c'est-à-dire bon, l'idée d'un objet d'extraterrestre et la volonté d'aller découvrir, je dirais, d'où il provient et l'idée que peut-être nous rentrerons en contact avec, c'est pas une civilisation avancée. Le point qui est ici important, c'est la rupture que va connaître cette narration avec essentiellement l'entrée dans l'appartement mystérieux. Et pourtant, ce sont toujours les mêmes règles esthétiques qui ont conduit le film, qui vont continuer à s'appliquer. C'est-à-dire, vous retrouverez cet affrontement constant qui a été noté par les critiques, par exemple, du rectangle et du cercle, hein, qui est ni plus ni moins que le problème donc de la quadrature. Et le point qui est important ici, c'est de noter eh bien, que ces formes, d'abord, donc coexistent durant tout le film, ont été notées, mais d'autre part, que ces formes s'exercent toujours sur les corps des êtres humains. C'est-à-dire que constamment, Kubrick travaille sur les corps pour les inscrire dans les formes géométriques et pour, je dirais, alors là, d'un point de vue plotinien et alchimique, les rectifier et les apporter et les porter donc dans une forme, je dirais, parfaite. Eh bien, tout l'objet du film de Kubrick, et c'est en cela aussi qu'il peut renouer avec ce qu'on appelle la légende des sciences, eh bien, le film de Kubrick, c'est de retrouver ce que la rêverie de la science comporte de volonté de réintroduire l'homme, de réintroduire l'homme dans le cosmos, de l'allier à nouveau dans le cosmos. Cette entrée dans l'appartement mystérieux est saisissante. C'est lorsque nous voyons Bowman en scaphandre, qui a été jusqu'au bout de l'univers, on peut le dire, enfin jusqu'au-delà de l'infini, comme dirait Kubrick, et qui se retrouve complètement perdu dans cet appartement du bout du monde, quoi. Eh bien, je dirais que là, il y a une perte de l'histoire, de la continuité narrative, qui est d'ailleurs, pour le spectateur, une désorientation totale qui est peut-être rapprochée d'une expérience de folie, d'une expérience de mort. Et d'ailleurs, Michel Simon note très bien l'expérience de stupeur qu'il a eue en voyant le cosmonaute Bowman. Mais là où le film continue à travailler, et secrètement, c'est au niveau de la narration esthétique. Puisque nous avons toujours la cuisson donc des corps. Vous vous souvenez, j'ai parlé du soleil qui sortait de la lune comme phénomène de cuisson. Vous avez encore la cuisson des corps, vous avez Poole qui bronze sous les ultraviolets. Vous avez également les hibernacles ou les sarcophages d'hibernation, on pourrait dire, dans lesquels là on refroidit les hommes. C'est-à-dire une spéculation sur la température. Le film lui-même ne cesse de monter en température. Le fait que le soleil soit vertical sur le monolithe sur Terre indique que nous sommes donc forcément au tropique, c'est-à-dire la partie la plus chaude de la Terre. Et ensuite, nous irons dans le monde de l'Empyrée, où là, ce sera un déploiement de fantasmagorie visuelle qui est lié à la chaleur des étoiles, la chaleur atomique. Donc nous avons eu cette constante, chaleur, qui n'est autre d'ailleurs que l'os qui a été renvoyé vers le ciel, c'est-à-dire vers le soleil. Nous sommes en chemin vers la solarisation du corps de Bowman. Donc vous arrivez dans cet appartement qui est donc inondé de lumière, éclairé par le bas, inondé de lumière, donc dans lequel Bowman va découvrir sa vieillesse accélérée. Et pour la première fois dans le film, un être humain se regarde et qu'est-ce qu'il voit dans un miroir, dans le miroir, un être au je dirais, dont le vieillissement est absolument surprenant, dont le vieillissement est une stupéfaction. Beaucoup de gens se sont, beaucoup de critiques se sont interrogés. Qu'est-ce que ce vieillissement accéléré? Eh bien, c'est toute une spéculation finalement sur la température et sur, je dirais, l'effet du soleil, l'effet des feux du soleil. Finalement, ce qui est illustré ici, eh bien, n'est autre que le thème du mûrissement. C'est-à-dire que Bauman vieillit parce qu'il a été exposé, et vieillit de manière accélérée parce qu'il a été exposé donc au feu, et particulièrement au feu du soleil. Donc ce thème de mûrissement, et qui rejoint d'ailleurs ce thème inverse donc dans les sarcophages d'hibernation, où pour conserver le corps pour l'éternité, eh bien, il faudrait le congeler, pratiquement, du moins le refroidir.
Je t'assure de bonne foi, car je ne suis point envieux comme les autres philosophes. Je t'assure, dis-je, que celui qui voudra expliquer ce que les alchimistes ont écrit selon le sens ordinaire et littéral des paroles, se trouvera engagé dans les détours d'un labyrinthe d'où il ne se débarrassera jamais, parce qu'il n'aura pas le fil d'Ariane pour se conduire et pour en sortir, et quelques dépenses qu'il fasse à travailler, ce sera tout autant d'argent perdu.
Le corps de Bauman, d'ailleurs, est étendu dans un lit, comme on le voit dans les gravures alchimiques. Dans le gravure alchimique, le sujet de l'œuvre est souvent représenté sous la forme d'un homme, et cet homme peut être allongé sur un lit. Cet homme est parfois allongé sur un lit, en train de pourrir, de se décomposer sous ce que les alchimistes appellent l'influx céleste. Et bien ici, l'image de Kubrick rejoint tout à fait la même spéculation, à savoir cette spéculation de la graine, qui doit mourir pour renaître.
Dans les livres de cette semaine, j'aimerais particulièrement attirer d'abord l'attention sur le volume de Lassa de Métoui, Danse avec le vent, aux éditions Piron. De quoi s'agit-il? De tout un certain nombre de citations sur l'amour, sur le sentiment amoureux, des citations tirées d'ailleurs aussi bien des civilisations traditionnelles, et particulièrement de la civilisation arabe, d'où tout un certain nombre de mystiques arabes, du milieu du Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux poètes contemporains. Et pourquoi s'intéresser ainsi à ce sentiment amoureux? D'une part, parce que le titre même « Danse avec le vent » le dit. À travers le vent, c'est effectivement le souffle, tel qu'il a été compris aussi bien dans les langues sémitiques que dans les langues européennes, ce qui a donné le pneuma en grec, c'est-à-dire en fin de compte le vent de l'esprit. Et d'autre part, parce que chacune des citations est accompagnée d'un travail de calligraphie qui hérite de la calligraphie arabe, c'est-à-dire de cet art où, dans le tracé des lettres, il y a quelque chose de la spiritualité qui se donne. Et donc, c'est un ouvrage à contempler, c'est un ouvrage à méditer, c'est un ouvrage à tous les points de vue extraordinairement nourrissant. En moi, spiritualité qui se donne. Et donc, c'est un ouvrage à contempler, c'est un ouvrage à méditer, c'est un ouvrage à tous les points de vue extraordinairement nourrissant. En moi est entré le mal d'amour, comme un poison mêlé de miel. Je m'en suis délecté sans savoir, et dans ce délice était la mort. C'est tout à fait logiquement que nous pouvons passer maintenant au livre de Rachid Koraïchi et de Marina Lostia en même temps, Rumi, le miroir infini, aux éditions alternatives. Puisque nous sommes sur le même principe, d'un texte Et, en l'occurrence, le texte de Rumi, c'est-à-dire l'un des plus grands mystiques soufis, c'est-à-dire en même temps aussi l'un des plus grands mystiques de toute cette tradition arabe à laquelle je faisais allusion à l'instant, c'est un texte de Rumi avec, en miroir, si on peut dire, tout un travail sur les formes, tout un travail d'image qui le prolonge et qui retrouve, en fin de compte, ce qui était la fonction de l'icône, c'est-à-dire de nous donner comme une trace de l'invisible, de cet invisible que Rumi est sans arrêt en train de poursuivre à travers sa propre écriture. Tu es la miséricorde du miséricordieux, à la fois le baume et la cure. Donne, comme ferait le médecin, ce répulsif qui guérit la noire mélancolie. Enfin, puisque à travers Rumi, nous sommes entrés dans l'espace proprement et spécifiquement mystique, je voudrais parler de la publication par les éditions Honoré Champion de « La vie par elle-même et autres écrits biographiques » de Jeanne-Marie Guyon. Jeanne-Marie Guyon est l'une des représentantes du courant mystique de l'école française du XVIIe siècle, particulièrement élève ou plus exactement travaillant avec Fénelon, et elle est l'emblème de ce courant piétiste, de ce courant qui en quelque sorte pratique l'abandonnement de soi-même à la divine grâce du Seigneur, qui est comme une sorte de remise de son âme, de renoncement à soi-même, à travers lesquels on ouvre l'espace à la présence du principe ou de Dieu. On l'appellera évidemment selon son système de croyance ou selon son système de pensée. Et nous avons là un témoignage extraordinairement fouillé, extraordinairement intelligent en même temps, de ce qu'est une véritable expérience intérieure et des conditions dans lesquelles elle se déroule. Car il n'est de séant que celui du pur amour, où mon cœur incline à son gré, pourvu que je ne le retienne, et que je m'abandonne moi-même où mon âme veut aller, sans que j'y veuille mettre un frein.
Les livres aujourd'hui, Danse avec le vent de Lassad Metoui aux éditions Pirot, Rumi, le miroir infini de Rachid Koraïchi et Marina Lostia aux éditions Alternatives, et La vie par elle-même et autres écrits autobiographiques de Jeanne-Marie Guyon aux éditions Honoré Champion. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jean-Marc L. Scholz. Texte lu par Catherine Matelli et Frédéric Prévost, recherche sonore Sylvie Gallo, mixage Annick Brien, Bernard Laniel, réalisation Isabelle Lefebvre-Huel.
Vous écoutez France Culture, il est 9h moins le quart. Clin d'œil. Aujourd'hui, proposition d'habitation. Une installation
d'actionnaire. Nous avons acheté cette œuvre qui est devant vous parce que justement.